والتوفيق لما يحب ويرضى. ان شاء الله سيليا دي فرانكوفون va essayer de parler en arabe et en français en même temps. المحاضره نتاعنا ان شاء الله تكون حول فضائل العشر من ذي الحجه اللي بدات اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الحديث الصحيح اللي عند البخاري واحمد وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام، اي ايام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بان هذا الايام اللي بدات اليوم هي افضل ايام السنه على الاطلاق. حتى في حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل ايام الدنيا ايام العشر. وفي روايه عند احمد يقول: فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذا الايام يا اخواني هي ايام مباركه. كانوا يقولوا السلف الصالح من علماء ديننا رحمه الله عليهم: لو ان الامه تعرف قيمه هذا الايام لعاملتها كما تعامل العشر الاواخر من شهر رمضان. فالعشر الاواخر من شهر رمضان يعني الامه كلها تكون في بيوت الله عز وجل، وتكثر من ذكر الله، وتكثر من الصدقات ومن فعل الخيرات. ولكن هذا العشر الأوائل ذو الحجة مع أنها عظيمة جدا، ولكن الأمة يعني أغلب الأمة أغلب الناس المسلمين يعني تمر علينا مر الكرام. Donc ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, donc la conférence mes frères pour les francophones, il est autour des mérites des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ces jours qui ont commencé aujourd'hui. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit: les meilleures journées de toute la vie, de toute votre vie, c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et dans un autre hadith il dit que il n'y a pas des jours dans toute l'année où les bonnes œuvres ils sont appréciées par Allah Azza wa Jal et mieux récompensées que ces jours, que durant ces jours. Il fait référence aux 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ils ont dit: Ya Rasulallah, wala al-jihad fi sabilillah. Il a dit: wala al-jihad fi sabilillah. Sauf une personne qui sort dans le sentier de Dieu avec toute sa fortune et sa personne, il revient avec rien du tout. Donc ces jours-là, c'est des jours grandioses. Les savants nous disaient que ces jours-là, si la communauté savait la valeur de ces jours, ils se préparent plus qu'ils font, ou au moins comme ils font durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Parce que les 10 meilleures nuits de l'année, c'est les nuits des 10 derniers jours du mois du Ramadan. Parce que dans ces nuits, il y a Laylat al-Qadr. Mais les meilleures journées de l'année, encore meilleures que ces journées qui sont durant le Ramadan, c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Premièrement, ces journées, ils sont dans des mois sacrés. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: Inna iddat al-shuhur inda Allah 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. يقولنا الله عز وجل خلق هذا الدنيا وجعل فيها 12 شهر. كلنا كنعرفوا باللي كاين الاشهر اللي كتسمى الاشهر الميلاديه، جانفي فيفري مارس الى اخره، ونحفظوها مزيان. ولكن كاين اشهر اخرى، كاين شهور اخرى اللي هي شهور دينيه، شهور اسلاميه اللي المسلم هي من الهويه نتاع المسلم اللي خاص نكونوا حافظينها وخاص نعلموها لوليداتنا. هذه كتسمى السنه الهجريه ولا السنه يعني القمريه لانها كتعلق بالقمر. إذن الله سبحانه عز وجل يقول منها أربعة حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كيشرح لنا شكون هما هاد الأربعة اللي حرم. قال ثلاث متواليات، ثلاثة شهور متابعين، هو ذو القعدة اللي خرج البارح، وذو الحجة اللي بدا اليوم، وذو الحجة هو الشهر ديال الحج ياك أسيدي، وآخر شهر في السنة الميلادية في السنة الهجرية، وبعده محرم اللي هو الشهر الأول في السنة الهجرية، فهذو ثلاث شهور متابعين. قال ورجب مضر بين يعني جمادة وشعبان، رجب هذاك جاب بوحده حتى هو من الأشهر الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم إخواني حين جاء وجاب الإسلام لقى المشركين عندهم هذه الأشهر الحرم، ماشي هو اللي جابها، ما جاتش مع الإسلام. والله عز وجل حين يشوف الناس كيعملوا شي حاجة مزيانة كيوافقهم عليها. كان الإنسان ممكن يلقى قاتل أبو شي واحد اللي قتلوا أبوه وكيتسنى سنين باش يتلقاه باش يقتلو، ولكن إلا تلقاه في الأشهر الحرم ما يمسوش، لأن كانوا كيعظموا شعائر الله عز وجل، كيعظموا حرمات الله. واليوم يا إخواني نحن مسلمين ولكن ما عندنا هذا يعني التعظيم بهذا القدر، ربما احنا في الأشهر الحرم وشحال ديال الدماء ديال المسلمين، دماء الأبرياء، وشحال من دماء تسفك باسم الإسلام، مع أننا في أشهر حرم. يعني المفروض أن هذه الشهور اللي نبينوا رحمة الإسلام وسماحة الإسلام والخير اللي عندنا في الدين ديالنا. فلهذا الله عز وجل اختار أيام وأشهر وجعلها محرمة. شنو معنى محرمة؟ شنو معنى أن الأشهر حرم؟ يعني أن الطاعة فيها مضاعفة. يعني الإنسان إذا يطيع الله يقرأ القرآن يتصدق يصوم في أيام أخرى عندك أجر، ولكن لو تعملها في هذه الأيام عندك الأجر مضاعف، لأنك تطيع الله ولأنك كذلك تعظم حرمات الله. وكذلك الله عز وجل جعل أماكن محرمة مثل المسجد، فالإنسان اللي يطيع الله خارج المسجد عنده الخير، ولكن في المسجد عنده الخير والحسنات أكثر. ولكن والعياذ بالله المعصية، معاصي، معصية في الجامع راه فيها جوج نتاع المصيبات، فيها أنك ذنب ومعصية، وفيها أن انتهاك لحرمة الله سبحانه عز وجل. فلهذا هذا معنى محرم. ففي الشهور الحرم كذلك المعاصي والعياذ بالله يعني مضاعف الوزر ديالها عند الله سبحانه عز وجل. دونك الله سبحانه عز وجل il nous dit qu'il a créé dans ce verset il dit qu'il a créé 12 mois. Il dit le nombre des mois auprès d'Allah est de 12. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Donc ces jours-là qui sont très importants de Dhul-Hijjah, ils font partie, ils sont dans des mois sacrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique c'est quoi ces mois sacrés. Il dit 3 mois successifs qui sont Dhul-Qa'da qui vient de s'achever hier, et Dhul-Hijjah qui a commencé aujourd'hui, c'est le dernier mois du calendrier musulman, et Muharram c'est le premier mois du calendrier musulman. Donc ces 3 mois successifs c'est des mois sacrés. Il dit et il reste un mois qui est isolé, le mois Rajab qui vient entre Jumada et Sha'ban. Donc c'est bien d'ouvrir une parenthèse pour expliquer qu'il y a deux calendriers, qu'on a deux calendriers, le calendrier civil qu'on connaît tous, janvier, février, mars, etc. Mais il y a un autre calendrier qui est très important pour les musulmans, parce qu'il fait partie de l'identité du musulman, qu'on doit l'apprendre par cœur, on doit le transmettre à nos enfants. Et malheureusement, Moi, que je m'occupe beaucoup de l'éducation, de l'enseignement des enfants, rarement quand ils rentrent dans les mosquées que tu trouves des enfants qui connaissent le calendrier lunaire. Et des fois, même les grands ne le connaissent pas, malheureusement. Donc, on l'appelle le calendrier lunaire parce qu'il suit la lunaison. Une fois que tu lèves tes yeux dans le ciel et que tu vois l'apparition de la lune, tu dis demain, c'est le premier jour. Puis après la lune, il va grandir jusqu'à ce qu'il devienne la pleine lune. Tu dis, c'est on est vers le 13, 14, 15. Puis après, il va disparaître de l'autre côté. Et ce cycle-là, il est de 29 au 30 jours. C'est le calendrier lunaire ou bien le calendrier égyrien. On l'appelle le calendrier égyrien parce qu'à l'époque de Sayyidina Omar, radiallahu anhu, les musulmans, ils se sont accordés de le choisir et de choisir leur calendrier à partir de l'hijra, de cette hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca à Médine. Donc on va les citer, c'est qui ne les connaît pas? Vous les connaissez, j'espère tous. Premier mois, le janvier des musulmans, le mois numéro 1 dans le calendrier, il s'appelle comment? Masmachwal. Hein? Yennayr. Là, Yennayr, c'est janvier. C'est janvier. Non, le calendrier musulman, on a, et je viens de le dire, hein, si vous êtes attentifs, je viens de le dire, j'ai dit trois mois sacrés, les deux, c'est les derniers. Puis après, juste après, il y a le premier mois, il s'appelle Muharram. Muharram, ça veut dire sacré aussi. Et ce mot de Muharram, c'est avant l'islam. Les mouchriquins, même avant l'islam, qui l'ont donné ce nom de Muharram. Muharram, ça veut dire l'interdiction totale des armes. Les armes, ils se taisent. Le prophète Slossam, quand il est venu, l'islam, quand il est venu, il a trouvé des gens qui ont des bonnes pratiques. Il n'a pas dit non, on les abandonne. Non, non, c'est à nous. Tout ce qui est de bien, il est à nous. On va le faire, on va faire pareil. Et Allah Azza wa Jal, il nous a dit, aussi les sacrés pour vous, c'est moi. C'est moi, ils étaient sacrés même avant. Et ils respectaient beaucoup plus que nous le caractère sacré de c'est moi, les gens avant l'islam. On disait même quelqu'un qui pouvait rencontrer l'assassin de son père, il attendait le moment pour le trouver, pour le tuer, pour se venger, mais s'il le trouve dans un moment sacré, ou bien dans un endroit sacré, il ne peut pas le toucher. Parce qu'ils avaient beaucoup de respect. Aujourd'hui, malheureusement, au nom de l'islam, dans des mois sacrés, combien de sang est coulé? Au nom de cette belle religion de la miséricorde, hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que ça veut dire sacré? Ça veut dire que tout ce que tu fais de bonnes actions pendant ces moments, il est décuplé. Mais aussi le péché, il est aussi décuplé, parce que le péché pendant des jours sacrés ou dans des endroits sacrés, il y a deux problèmes. Le problème du péché, le problème d'avoir le culot de transgresser Dieu, c'est comme si défier Dieu. Tu l'as rendu sacré, moi ça m'intéresse pas. Comme la mosquée c'est un endroit sacré. Faire un péché en dehors de la mosquée, c'est moche. Mais de le faire à l'intérieur de la mosquée, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup. C'est décuplé. Et aussi faire des bonnes actions en dehors de la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, les bonnes actions sont décuplées aussi. Donc c'est ça le sens de ces mois, ils sont sacrés. Donc ces jours-là qu'on a commencé aujourd'hui, c'est des jours sacré dans des mois sacrés. C'est le mois du pèlerinage. Donc je vais vous dire vite fait, Inch'Allah, ces mois. Ça commence par Muharram. Et le deuxième mois, c'est quoi? C'est Safar. Puis après, ils sont très faciles. Puis après, il y a Rabi' l'Awwal, c'est le mois du printemps. Rabi' Thani. Jumada l'Oula. Jumada Thaniya. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Ramadan, c'est le 9e mois. Puis après, il y a Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja. Ils sont faciles, Inch'Allah. Ça fait partie, Ikhwani, de notre identité musulmane. Il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les apprenne, et il faut qu'on transmette ce savoir aussi. Donc ce mois-là, le Dhul-Hijja, comprenez quel est le dernier mois du calendrier lunaire, du calendrier hijérien, du calendrier musulman. Les 10 premiers jours, c'est les meilleures journées de l'année. Pourquoi on l'appelle Dhul-Hijja? C'est le mois de pèlerinage. Dhul-Hijja, Char d'Hajj. Les gens que Dieu les a choisis sont maintenant Dhul-Hajj. D'autres sont en train de se préparer pour aller pour faire le pèlerinage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en tant que musulman? Qu'est-ce que je dois faire pendant, durant ce mois, ces 10 jours de Dhul-Hijja? La première chose qu'il faut faire, Ikhwani, la première chose, c'est de ne pas désobéir à Allah. D'essayer de ne pas désobéir à Dieu. Parce que la désobéissance à Dieu, durant ces moments bénis, ces moments grandioses, sacrés, elle est dangereuse. Deuxièmement, de ne pas perdre le temps, de faire du bien. Ça veut dire même les choses qui sont autorisées. Les choses qui sont, que je peux les faire. Pendant ces mois, pendant ces jours, ces 10 jours, je dois retarder ces choses après. Regarder trop la télévision, faire, je sais pas. Non, ces jours-là, ça veut dire que je dois faire beaucoup de bonnes actions. Beaucoup de bonnes actions. Et parmi ces bonnes actions, regardez pourquoi ces jours ils sont très importants, parce qu'il y a toutes les grandes adorations, on peut les faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de jeûner, de faire le jeûne, et surtout le jour de Arafat qui va être le vendredi. Le jour de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, jeûnez ce jour-là, Allah azza wa jalla, il expie les péchés de 2 années. Le vendredi qui va venir, pas demain, l'autre vendredi. La prière, d'être plus assidu à notre prière, et pourquoi pas faire des prières surrogatoires, de se lever un peu avant Salat Sobh. Puis après, il y a quelque chose de très important, c'est dua, de faire beaucoup de dua. Parce que le jour de Arafat, où nous on jeûne, le jour de Arafat, c'est le 9e jour de ce mois-là. Les pèlerins, je vais vous expliquer, vous résumer ce qu'ils font les pèlerins. Ils sont obligés d'être tous dans cet endroit qui s'appelle Arafat. Et toute la journée, ils ne vont pas faire beaucoup de prières. Ils n'ont pas le droit de jeûner. Tellement qu'ils ne vont pas faire beaucoup de prières que leur prière s'arrête à ça. Au moment de Dhuhr, ils vont faire 2 rak'at Dhuhr. Et juste après, ils vont coller avec 2 rak'at l'Asr. C'est fini la prière. Ils vont prier que la nuit, quand le coucher du soleil, après le coucher, ou l'heure de l'Isha, et dans un autre endroit, Muzdalifa. Et qu'est-ce qu'ils vont faire toute la journée? Cette journée, la plus grande journée, la plus importante journée de toute l'année. Eh bien, ils vont faire dua. Chacun pleure devant Allah Azza wa Jalla sur ses péchés. Chacun se remet en cause. Chacun, et c'est un exercice pour nous, c'est un rappel que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Et normalement, c'est un conseil à moi avant vous, si on comprend l'importance de dua, on se donne, on fait un programme. Tous les jours, je dis, je vais m'isoler et je vais faire dua pendant 5 minutes. Demain, je vais faire 6 minutes. La semaine prochaine, peut-être. Et à un certain moment, je dois ramener ma liste à Allah Azza wa Jal. Tout ce que j'ai besoin, je le demande de Dieu. Je le demande à Allah Azza wa Jal. Et le fond de l'adoration, c'est ça. Le fond de Tawhid, c'est quand dans toutes tes affaires, tu dis à Allah. Tu lèves tes mains au ciel et tu dis à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna allaha hayyun karim » يَسَّحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ. إذن شنو نعملوا في هذه الأيام, في هذه العشر الأيام ديال ذو الحجة اللي هي عظيمة ومعظمة والأعمال فيها يحبها الله سبحانه عز وجل؟ أول شيء اللي خصنا نعمله يا إخواني, لأنها أيام معظمة محرمة عند الله, هي من عصوش الله عز وجل. أكبر صدقة يعملها الإنسان هو يتصدق على نفسه ما يعصاش الله، لأن الإنسان العاقل قبل ما يبني خصو يرد البال داكشي اللي يبنيه يبنيه على أساس. فلهذا الإنسان يبتعد عن كل المعاصي ويتوب إلى الله سبحانه عز وجل، ثم ما يضيعش وقته. هذه الأيام أغلى من أيام رمضان، الإنسان ما يكثرش فيها أي حاجة. أي حاجة يا إخواني اللي ما تقربناش الله عز وجل في هذه الأيام نخليوها من بعد، وخا يجوز خليها من بعد، لأن هذه الأيام اجتمع فيها الخير كله. أيام الصيام، أيام الصيام الإنسان كل ما قدر يصوم فيها يصوم فيها، الصوم فيه أجر عظيم في هذه الأيام، وخاصة يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال أرجو أو أطمع، لا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث يكفر الله به ذنوب السنة الماضية والمستقبلة، يعني الله كيغفر به ذنوب نتاع عامين. وهذا اليوم هو أعظم يوم في الدنيا، يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رؤي الشيطان أخزى ولا أحقر ولا أذل من يوم عرفة، يقول يا ويلتاه اجتهدت طول عمري حتى أغويهم وغفر لهم، حياتي كلها وأنا نخرجهم على الطريق والآن أغفر لهم الذنوب ديالهم. فالحجاج في في في, في هذاك المكان اللي وفقهم الله سبحانه عز وجل فكروا في اش كيعملوا في ذاك النهار، ما كيصليوش بزاف، الصيام ممنوع عليهم، حنا خصنا نصوموا باش نديو شي الاجر بحالهم، اما هما اللي في عرفه ما يصوموش، حتى الصلاه غادي يصليو ركعتين في وقت الظهر وركعتين العصر في وقت الظهر كلهم. اللي مشاو للحج دابا اللي سبق له مشى للحج راه كيشوف ذاك المنظر هذا، وبعد ما عنده صلاه صف كملت الصلاه ديال النهار كله يتسنى حتى تنزل العشاء ويمشي لمزدلفه، واش غادي يعمل النهار كله؟ كيعمل يا اخواني اعظم عباده، اعظم عباده هي الدعاء، الدعاء هو العباده يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي كنزهدوا فيه احنا، لان احنا كلنا عمر مشاكل هموم، واللي في يده المفتاح ديال الخير والسعاده ديالنا هو الله عز وجل، وحنا كنخليوها ونمشيو لعند البشر. فلهذا الانسان العاقل الفطن يوميا عنده ورد ديال الدعاء بينه وبين الله عز وجل، ويكون عنده الصحابه رضي الله عنهم كانوا يسالون الله عز وجل يقولوا حتى الملح اسالوا من ربكم ولو شراكا عليكم، إن الله يحب العبد الملحاح للح في الدعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه. البشر إذا تسبيش يطلب له شي حاجة اليوم اطلب له غدا وبعد غدا يغضب عليك، الله عز وجل العكس، إذا ما تطلبلوش وطلب الغير يغضب عليك، وكل ما تلح يبغيك. فلهذا يا إخواني هذه الأيام الشعار ديالها هو الدعاء، وشعارها هو الصيام والمحافظة على الصلاة والإكثار من النوافل وإكثار من ذكر الله سبحانه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، سبحان الله والحمد لله. وكان الصحابة منهم سيدنا بلال رضي الله عنه وابن عمر وعمر رضي الله عنه كان في هذه الأيام هذه كيمشوا الأسواق ويقول ما عندنا لا بيع لا شراء في السوق، غير باش يبينوا الناس عظمة هذه الأيام، يمشي للسوق ويكبر كبر الله عز وجل باش الناس يقولوا شنو حدث، يقولوا هذه الأيام عظيمة خصكم تجتهدوا في طاعة الله فيها. فاحنا على الأقل هادشي نعملوه في بيوتنا، يعني على الأقل نفيقوا وليداتنا ونشعروهم باللي هذه الأيام أيام سبيسيال كما يقولوا. شمن وقت صلاة العشاء جماعة؟ ترون تروى. ما شاء الله، أنا أول مرة نجي لستراسبور، الحمد لله مدينة عندكم جميلة جدا، مشينا للمسجد الكبير، واحد الأخ مسكين زارنا المدينة شوية في نص ساعة كلها، مدينة جميلة ونسأل الله عز وجل الحمد لله يوفق المسلمين هنا حتى نجتهدوا على تربية وليداتنا هو الأصل. أيوة. لأن احنا يا إخواني احنا رحنا السلف نتاع مسلمين فرنسا من هنا واحد ثلاثة القرون أربعة خمسة القرون غادي يكونوا المسلمين أكثر في فرنسا. فإذا كنا احنا سلف الخير فهم يكونوا مزيانين حتى هم إن شاء الله بإذن الله. إذن هذه الأيام الشعار ديالها هو كاين الناس اللي مشاو للحج وكاين مسلمين لهنا، مفروض أنهم يكثرون من ذكر الله، وكتختم بيوم عرفة وهو أفضل أيام الدنيا، وبعدها يوم الأضاحي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي يا رسول الله ما هذه الأضاحي، شنو هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم، هذا الأضاحي هي سنة أبيكم إبراهيم. قالوا وما لنا بها؟ هذه الأسئلة اللي كانوا يسألوا الصحابة يا إخواني، شي يعطيني الله عز وجل في الآخرة إذا ضحيت يا رسول الله؟ وأنا نفتح واحد القوس باش نقول لكم يا إخواني بكل محبة، يعني في كثير الجوامع ديالنا كنسولوا شي أسئلة اللي ما كتقربناش من الله عز وجل. هادشي على الأقل في الجامع فين كان أنا إمام يجي يقول لك راه حنا تغاننا فلوزين واش الدين تاع غنان؟ إيه. ولا كنا كنتكلموا في الدار وفلان قال لا راه الصلاة يجوز تحط يدك هنا ولا آخر. يا إخواني موش الأسئلة اللي سولها الصحابة، أسئلة الصحابة شوفوها في الأحاديث. يا رسول الله ما هو أحب الأعمال إلى الله؟ يا رسول الله دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ كان كل واحد يا إخواني مهتم بنفسه بالشيء اللي يقرب الله سبحانه عز وجل. فهنا الصحابة كذلك غير قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة أبيكم إبراهيم، قالوا له شيعطينا الله عز وجل. Donc les ces jours, ces 10 derniers jours, ils finissent par une journée aussi très importante qui est la journée de l'Eid, du sacrifice. Bismillah. Alhamdoulilah. Les compagnons, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, c'est quoi ces offrandes? Ça veut dire c'est quoi le sens de ces offrandes? Et ça, j'ouvre une petite parenthèse avant de finir le hadith, que les compagnons, ils cherchaient toujours le sens de l'adoration. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la forme et on oublie le sens. Parce que quand on ne donne pas du sens à ce qu'on fait, on le fait mal. Et quand on fait quelque chose mal, au lieu de nous rapprocher de Dieu, des fois, il nous éloigne de Dieu. Et dans toutes les adorations, dans la prière, il y a un sens dans la prière. Dieu ne t'a pas dit faire la prière pour t'embêter. Il t'a dit wasjud waqtarib. Prosterne-toi beaucoup pour augmenter dans cette proximité de Dieu, pour te rapprocher plus d'Allah Azza wa Jalla. Si ça fait 10 ans, 20 ans, tout le temps je prie sur le dhuhr et je ne sens pas cette proximité, c'est ce qui est un problème, c'est ce que je ne donne pas de sens à ce que je fais. Et le jeûne, et le pèlerinage, et là les offrandes, les compagnons ils demandent, ya Rasulallah, c'est quoi ces offrandes? Il a dit, c'est la tradition de votre père Ibrahim. Et je vais ouvrir aussi une parenthèse pour rappeler cette relation qu'on a avec cette grande famille, qui est de Ibrahim alayhi salatu wasalam. Maintenant qu'on fait la prière, on fait bien dans cette direction. Vous êtes d'accord? Pourquoi on ne le fait pas dans cette direction la prière? Qui peut me répondre? Pourquoi on ne fait pas comme ça la prière ou comme ça? Pourquoi on est obligé de chercher, même quand tu es dehors, tu es en train de chercher avec ta boussole, qu'est-ce que tu es en train de chercher? C'est important. Cheikh, il a dit le qabla. Qu'est-ce que ça dit le qabla? Le qabla, c'est quoi? Le qabla, c'est la direction de quoi? Ah, le qabla, c'est la direction d'un endroit, de la mosquée sacrée, de ce sanctuaire qui a été construit par Sayyidina Ibrahim ou Ismaïl alayhi salam. Voilà notre relation avec ce grand prophète. Quand on fait la prière, on se dirige vers cette maison sacrée qui a été construite par Ibrahim ou Ismaïl alayhi salam. Puis après que les pèlerins partent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ces tournées circulaires autour de cette maison pour la glorifier. Puis après un certain moment, ils vont faire des allers-retours entre As-Safa ou Al-Marwa, de petits mots. Allah Azza wa Jalla dit Inna As-Safa wa Al-Marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Donc Safa ou Al-Marwa, c'est quoi le sens de Safa? Pourquoi tous ces hommes et toutes ces femmes, ils partent, ils sont obligés de faire les allers-retours entre Safa ou Al-Marwa? Eh bien, c'est pour commémorer la mémoire et les sacrifices d'une grande femme, d'une femme qui s'appelait Hajar. L'histoire, c'est que quand Allah Azza wa Jal, il avait demandé à Sayyidina Ibrahim de ramener son épouse Hajar et son nourrisson Ismaïl à un certain moment, donc il lui a ordonné de les ramener, de les laisser dans cet endroit où il y a maintenant la Mecque. Mecca, à l'époque, c'était un désert. Où il y avait ni eau, c'est un désert, il n'y a rien. Et cet homme, ce prophète, sous l'ordre de Dieu, il ramène cette femme et ce bébé, il les laisse, puis il leur dit au revoir. Il rentre où? À Jérusalem, à Al-Quds. Et Hajar, il regarde son mari revenir, il lui a laissé un peu d'eau et un peu de date. Il lui a dit, Ibrahim, il a un mentakiluna. Pour qui tu nous laisses ici dans ce désert aride? Il n'a pas répondu. Il était très triste. C'est l'ordre de Dieu. Il était triste de laisser sa femme. Au troisième fois, il a compris. Il lui a dit, Allah amaraka bihada. Est-ce que c'est un ordre de Dieu ou c'est de ta tête? C'est de ta tête, je ne suis pas d'accord. Si c'est un ordre de Dieu, dis-le-moi. Il a dit oui. Avec une grande certitude, dit Ikhwan, d'une femme croyante, et lui dit, Izhab, Izhab l'anion d'ayyana. Vas-y, vas-y. Si c'est de Dieu, Allah, il ne va pas nous laisser tomber. Hajar, il m'apprend à moi, il nous apprend à nous, les hommes, c'est quoi la confiance en Dieu? C'est quoi l'yaqin? Quand quelque chose, c'est un ordre divin, il n'y a que du bien. Jamais Allah, il te dit de faire quelque chose où il n'y a pas du bien. Ça veut dire quand je dors, puis après le matin, je dois me lever pour faire salat sobh. Le shaitan, il me dit que tu as besoin de 8 heures, de 10 heures pour dormir. Quand tu te lèves, tu fais sobh. Je dois lui dire ce qu'il a dit à Hajar. Est-ce que c'est un ordre de Dieu de faire sobh à 7 heures? Allah, il ne va pas me laisser tomber. Peut-être je dois m'habituer un petit peu. Le premier jour, j'aurai un petit peu mal à la tête. Mais Allah, il ne va pas me laisser tomber. S'il m'a dit de me lever à cette heure-ci, c'est pour une raison. C'est pour mon bien. Hajar, il nous rappelle quelque chose de très important, Ikhwan. La place de la femme dans l'islam. Mais il faut avouer, entre musulmans, que si l'islam il a donné à la femme une très très grande place, nous avec notre culture, avec nos traditions, on maltraite la femme. Jusqu'à ce qu'on est devenu une moquerie des autres. Jusqu'à ce que les gens ils mélangent, ils voient nos pratiques, ce qu'on fait nous, ils disent regardez l'islam ce qu'il fait. Hier j'ai entendu un ici en France, des ennemis des musulmans, ils parlent de ce qu'ils font, excusez-moi de terme, ces criminels qui tuent des gens, en Irak ou en Syrie, au nom de l'islam. Il dit, ces gens-là, ils pratiquent l'islam à la lettre. Allahu Akbar. Eux, ils pratiquent l'islam. L'islam, c'est cette sauvagerie. Alors je vous rappelle, je le rappelle, nous devons dire à l'humanité c'est quoi l'islam. En tant que musulman, je fais ma prière 5 fois par jour. Une des sourates que tous les musulmans doivent la comprendre, la connaître par cœur, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi cette sourate? Fatiha. Quand tu dis Allahu Akbar, qu'est-ce que je dis? Bismillah. Al-Rahman, Al-Rahim. Je parle de la notion de la miséricorde, de la clémence, de la bonté 2 fois. Puis je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je reviens Al-Rahman Rahim 4 fois. Et donc ce Shahout, je vais parler aussi de cette miséricorde. 5 fois par rak'at. Tu es en train de parler de la bonté, de la clémence, de la miséricorde. En moyen, en général, on va faire 20 rak'at par jour. 20 fois 5, 100 fois tu parles de la miséricorde. C'est un vaccin de la gentillesse et de la bonté de la miséricorde. C'est bizarre de trouver un musulman violent, méchant, mauvais. C'est que Mskin, il n'a rien compris. Il a rien. Et le prophète Lassim nous a mis en garde contre le fanatisme, contre l'extrémisme. Il disait, maintes fois, certes, cette religion est facilitée. Inna hadha ad-din yusr wa lan yushadda ad-din ahad illa ghalaba. Et quiconque qui se fanatise dans cette religion sera battu, sera déçu, nous dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et hada ikhwani, notre islam c'est ça. Les compagnons, ils ont demandé, c'est quoi ces offrandes? Il a dit, c'est la tradition de votre père Ibrahim. Donc Ibrahim, c'est le premier qui a fait sacrifice. Et c'est quoi ce sacrifice? Malheureusement, quand je vais dans des mosquées, je trouve des gens qu'on apprend, des petits-enfants, et des fois je vois dans des pièces théâtre, Ibrahim il voulait égorger son fils, on montre le sang. C'est pas ça. Là, à l'époque, et dans toutes les civilisations, il y avait malheureusement cette manière d'offrir les humains pour des dieux dans les civilisations anciennes. Et avec Sayyidina Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ramené cette histoire qui nous fait réfléchir pour arrêter pour l'humanité les sacrifices des humains. Ce qu'on sacrifie, c'est les bêtes, c'est pas les humains. Donc l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand Dieu, Allah azza wa jalla, il a testé sa soumission à Dieu par une pratique qui était courante à l'époque, Allah azza wa jalla lui a dit non, stop, l'humanité doit arrêter d'égorger des humains, ça ne rapproche pas de Dieu, c'est mauvais. Il nous a donné cette symbolique d'égorger une bête. Un mouton, un agneau, une vache, etc. Donc le prophète Rasoul Kohen dit, Sunnata abikum Ibrahim, la tradition de votre père Ibrahim. Vous savez c'est quoi cette tradition de Sidna Ibrahim alayhi salatu salam? Allah Azza wa Jalla nous le dit dans un verse. Il dit, Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Faites des efforts dans le chemin de Dieu. Dans l'islam, soyez sérieux dans vos pratiques religieuses. C'est lui qui va, Allah, c'est lui qui vous a choisi, qui vous a sélectionné. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Il vous a mis aucun gêne dans cette religion. Et c'est ça la tradition de votre père Ibrahim, il nous dit. Donc quand le prophète Osmi, on lui pose la question, c'est quoi ces offrandes, c'est quoi le sens? Il nous dit, c'est la tradition de votre père Ibrahim. C'est qu'il n'y a pas de gêne. Le gêne, il est levé dans cette religion. Chaque chose qui te complique la vie, c'est pas de l'islam. C'est impossible. C'est impossible que tu aies plus religieux, plus que tu fonces dans la religion, plus que ta relation avec ta mère, avec ton père, avec tes voisins devienne mauvaise. C'est pas l'islam, ça. Tu te trompes de religion. L'islam, le contraire. Plus qu'il y a 2 dimensions, 2 relations, une entre toi et Dieu vertical, et une entre toi et les gens, et ça va de pair. Plus que ta relation avec Dieu est plus forte, plus que ta relation avec les humains elle est basée sur l'amour, sur le respect, sur la miséricorde, sur la bonté et la gentillesse. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des gens quand Dieu il aime quelqu'un. Quand toi tu es un bon croyant et que Dieu il t'aime, tu sais ce qui se passe? Dieu il appelle Sayyidina Jibril, il dit, oh Jibril, Allah j'aime un tel, aime-le. Et l'ange Jibril il t'aime. Puis l'ange Jibril il dit aux anges, sachez que Dieu aime un tel, aimez-le. Et puis après, il appelle dans la terre et tous les humains, tous les gens de la terre, ils l'aiment. C'est une religion d'amour. On ne parle pas assez d'amour, Yahweh. Dans cette religion, il n'y a pas de contradiction. Ce que je dis dans ma mosquée à mes jeunes, Dieu il vous a donné des filtres. Tous les discours de religion que vous entendez, même si on vous dit Dieu, il dit, le prophète, il dit, passez-les dans ces filtres qui sont simples. Quand Allah Azza wa Jalla parle de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'Islam, il dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». Regardez, ça veut tout dire. On t'a envoyé à Muhammad, on ne t'a envoyé qu'une miséricorde pour les univers. Donc il est en train de déterminer c'est quoi le message de l'islam. C'est le message de la bonté, de la gentillesse, de la miséricorde. Et le prophète, quand il parle aussi, qu'il définit lui-même sa mission, il dit « Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq ». Si je vous la traduis, si j'essaie d'être fidèle aux mots que le prophète les a prononcés, il dit « Dieu ne m'a envoyé que pour ça ». Mais une seule chose, ça veut dire le fond de mon message, le fond de l'islam, c'est ça. C'est quoi? C'est de pour prêcher et parfaire le bon comportement, l'éthique, la gentillesse, le sourire. Quand tu vois les... C'est ça, Makarim al-Akhlaq. Tu vois quelqu'un dans le besoin, tu l'aides. Tu rencontres ton frère. Tu le rencontres avec un sourire. Donc, n'importe quel discours, tu peux ramener des versets du Coran, tu vas les tronquer et tu les fais dire ce que tu veux. Allah Azza wa Jalla dit قُلْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il provenait d'autres que Dieu, vous allez trouver divergence. Mais puisqu'il vient de Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois demandé aux enfants, pour c'est quoi l'islam. Et la question qui revient, c'est que l'islam parle des cinq piliers de l'islam. Cinq piliers de l'islam. Je disais que les piliers, Ikhwani, quand tu fais des piliers, ça ne veut pas dire que tu as une maison. L'islam, ce n'est pas les piliers. Les piliers, c'est des fondamentaux, des choses importantes dans l'islam. Mais l'islam, c'est autre chose que ces piliers. L'islam, c'est ce message du prophète, de miséricorde. Dieu ne m'a envoyé que pour ça. Et ces piliers, c'est des fondamentaux qui servent cet objectif. Cette finalité. Donc les compagnons radiallahu anhum, je vois l'heure, il nous a rattrapés. Ils ont demandé au prophète à propos des sacrifices. Il a dit, c'est la tradition de votre père Ibrahim. Donc ils cherchaient le sens. Le sens, il est là. Et je veux juste, Inch'Allah, vous partager avec vous cette... Quand nous, les musulmans en France, on sait que c'est bien de faire le sacrifice. Oui, mais c'est une sunna. Bon, Akada, c'est très bien. Quand tu as les moyens et quand tu respectes toute chose, quand tu lui donnes pas ce sens, au lieu d'être positif, il devient négatif. Chez nous, ce qui me fait mal au cœur, ce qui arrive tous les ans, parce qu'on est dans la région parisienne, je vais vous dire des pratiques, vous me dites ce que vous pensez. Le jour de l'Aïd, parce que tous les gens, Ils veulent faire ce sacrifice eux-mêmes. Tu trouves toutes les poubelles des musulmans, ils sont pleins de sang et des intestins et des bas des animaux. Est-ce qu'à votre avis, on honore cette religion et on donne l'image qu'il faut donner à notre religion? Des fois même, j'ai vu des enfants qui jouent avec des têtes de mouton. Et c'est affreux. C'est affreux, Ikhwani. C'est pour cela, le sacrifice, avec son sens, quand, alhamdoulilah, on a une maison, ou bien on le fait proprement dans des abattoirs, bien sûr que c'est très bien, c'est très beau. Mais sachez, si on ne peut pas le faire, on ne doit pas le faire n'importe comment. On doit penser qu'il y a un sens, il y a des finalités pour cette religion. On a une très belle religion, on est des avocats. On est des gens qui doivent prendre soin de l'image de notre religion. Et ça suffit. Ça suffit qu'elle a été ternée, qu'elle a été diabolisée par des gens qui n'ont ni conscience, ni iyadun billah, ni... Enfin, nous, chacun de nous, on doit être des gens qui sont très vigilants à ça. Très vigilants comment on présente notre religion. Très, très vigilant comment on pratique l'Udhiya, comment on pratique tout. Enfin, ces jours, Ikhwani, les dix jours, je récapitule pour clôturer, Inch'Allah, c'est dix jours des bonnes œuvres. C'est les meilleures journées de l'année. N'oubliez pas, le jour de Arafat, c'est la meilleure journée aussi. Afdal ayyam dunya, yom Arafat, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jeûne pendant ce jour-là, il expie les péchés de deux jours. Je voulais, alhamdoulilah, je vous remercie, je remercie les responsables, alhamdoulilah, de cette association. Demain, le frère Karim sera avec vous, yani pour le Secours Islamique. Le Secours Islamique, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est cette ONG qui va aider les musulmans. Ah, c'est l'aile humanitaire de notre religion, les musulmans de France. Moi, je dis toujours aux musulmans, chaque musulman doit être fier de cette association. Parce que le Secours Islamique, c'est bien vous. C'est bien les musulmans de France qui l'ont fait. Quand, dans la région parisienne, quand je vous ai dit ces pratiques qui sont loin de l'islam, ou bien à la télé on parle de l'islam d'une manière, mais imaginez quand des gens avec des gilets comme le frère Karim de Secours Islamique, ils vont à Paris pour aider les sans domicile fixe, ou bien ils sont partout dans le monde pour forer des puits. C'est ça, ya Ikhwani, notre religion. C'est ça, Allahu Akbar. On ne dit pas Allahu Akbar pour agresser les gens. Allahu Akbar et tu fores un puits pour quelqu'un. Allahu Akbar et que tu nourris des nécessiteux. Tous nous avons pleuré et nous avons fait dua pour nos frères à Gaza. Mais on oublie vite, une fois que les images ne sont plus à la télé, on dirait que tout s'est réglé. Non, je suis désolé. Cette agression contre nos faux frères à Gaza, il a laissé des dizaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de gens sans abri. Et le professeur Assemi nous dit que le musulman est le frère du musulman. Donc nous, quand on va sacrifier ici ou ne pas sacrifier, on peut toujours sacrifier. On peut sacrifier par procuration. Et le Secours Islamique qu'on lui donne, il va prendre cette procuration pour sacrifier pour nous à Gaza ou au Sénégal ou dans un endroit qu'on aura choisi. Et le professeur Assemi, c'est lui le premier qui a fait ça. Je vais vous raconter cette histoire qui est un peu drôle dans le hadith. Le prophète Lassim va clôturer par ça. Un jour, le prophète Lassim, il a confié à quelqu'un. Il a dit, tiens, je te donne un dinar, donc une somme d'argent. Et tu vas, il lui a donné cette procuration, tu vas acheter pour moi un sacrifice de l'Aïd. Et cet homme, il est parti avec un dinar, il est parti dans le marché, il a fait une bonne affaire, il a acheté deux agneaux au lieu de un, avec un dinar. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, il a revendu un dans le même marché avec un dinar. Il revient au professeur Oslem avec l'agneau, son sacrifice et son dinar. Et le professeur Oslem, il a dit, mais je t'ai donné le dinar pour que tu m'achètes. Il a dit, Rasoulallah, voilà ce qui s'est passé. Et le professeur Oslem lui a dit, Allahumma barik lahu fi bay'ih. Il lui a fait un dua. Ya Allah, bénis-lui son commerce. Et celui qui rapporte ce hadith, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui gagne dans les affaires comme ce compagnon. Il était même capable de vendre de la terre et de gagner par la bénédiction de ce dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, entre autres, nous donne, alhamdoulilah, ce haraj, ce gêne, il est levé. Il n'y a pas de gêne. Il y avait un Abdullah ibn al-Mubarak, il disait, je préfère mieux ne pas sacrifier en étant riche que de m'endetter pour acheter un sacrifice. Nous, on fait le contraire. Non, il n'y a pas de gêne dans votre religion. Et y a, pourquoi il n'y a pas de gêne? Il y a des facilités. Vous pouvez, alhamdoulilah, sacrifier par procuration. T'as pas, tu ne le fais pas. Et si tu ne peux pas, t'as un petit appartement, acheter de la viande pour tes enfants. Barakallahu fikum, inshallah. Jazakumullahu khair pour votre présence. Et nas'Allah Azza wa Jal que fasse que ces jours-là, c'est des jours de bénédiction et de bien. Fallahumma ahilla alayna shahra dhal-hijja بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا في هذه الأيام من الطائعين ومن التائبين ومن الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.
هيا على الفلاح.